Europe 1.
Alors, qu'est-ce qu'on mange, Jean-Pierre ?
Les mirabelles. Ben oui, c'est la saison.
Hein, les prunes.
Ça sent bon, c'est délicieux. On en fait des tartes, on en fait tellement de bonnes choses.
Des confitures ?
Aussi.
Vous faites des confitures, Jean-Pierre ?
J'en ai fait, mais il y a longtemps que j'en ai pas fait.
Ah.
Et quand j'essaie d'en faire, généralement, je les rate, mais je suis un mauvais cuisinier.
C'est pas vrai, faut pas dire ça. Il n'y a pas de mauvais cuisinier, il y a des bons mangeurs.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bienvenue les amis à notre table du dimanche, votre nouveau rendez-vous tous les dimanches de 11h à 12h30. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre.
Quel bonheur d'être avec toi, on se tutoie.
Oui, on va se dire tu.
On se connaît depuis tellement longtemps.
On est voisins de 13h depuis une dizaine d'années.
On était voisins. J'ai lâché, j'ai vendu la maison.
Mais j'ai remarqué ça, dis donc.
Mais oui, j'ai vendu la maison au mois de décembre dernier. Mais je continue à regarder... Les petits plans en équilibre et à t'écouter sur Europe.
Ah ça, c'est sympa, ça. Alors, on ne sera pas tout seul, c'est le déjeuner du dimanche midi. Nous allons recevoir un historien qui est Patrick Rambourg, qu'on retrouve dans ton magazine,
voilà, on l'a interviewé dans mon magazine Au cœur des régions, qui est sorti cette semaine, et qui le magazine de défense du terroir, des régions. On parle des éoliennes, des langues régionales, oui. Mais on parle surtout aussi de ce qui est des riches dans les régions, notamment la gastronomie.
Exactement, on va en parler plus en profondeur et plus en détail de ce magazine. Emmanuel Rubin va nous retrouver et puis nous allons déguster, on va se régaler grâce à une chef qui est avec nous aujourd'hui, c'est Amandine Chéniaud. Bonjour Amandine.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va super bien.
Ben, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Parce que quand je vous ai dit, Amandine, on reçoit Jean-Pierre Pernaut, vous avez eu tout de suite envie de faire un plat.
Ce que je peux vous dire, c'est quand on rentre ici, ça sent très bon déjà.
Oui, exactement.
Ça sent un peu l'ail, ouais, c'est vrai. J'avais envie de faire des cuisses de grenouille.
Et pourquoi
non ? J'adore !
Pourquoi ?
On s'est renseigné, on a des dossiers quand même sur nos invités.
Ouais. On les a. Là, je viens d'ouvrir en fait un restaurant qui s'appelle le Café de Luce à Montmartre et j'ai eu envie de revoir un peu ces plats un peu oubliés, un peu malmenés parfois par les bistrots parisiens. Donc, on va faire un croissant fourré, jambon, fromage avec un petit peu de béchamel, un peu de truffe, un croissant à l'escargot et on terminera avec des petites cuisses de grenouille.
Oh, ça c'est cuisses de grenouille quand même. Brigitte Bardot déteste les cuisses de grenouille parce que elle pense que je pense à elle parce qu'elle m'a écrit une fois quand on avait fait des reportages sur les cuisses de grenouille au 13h. Elle dit attention, les grenouilles, elles sont maltraitées, etc. Moi, j'adore ce plat et c'est un plat traditionnel qui me rappelle mon enfance. On en mangeait beaucoup en Picardie autrefois.
Alors, il faut expliquer que les cuisses de grenouille, il y a des élevages en France, effectivement, où la mise à mort, on va dire, se passe le plus convenablement possible de l'animal. Sinon, il y a des cuisses de grenouille fraîches qui viennent également de Turquie. Et quand elles sont surgelées, en général, elles viennent d'Indonésie. Mais il y a de bons élevages respectables et durables, si je puis dire, de cuisses de grenouille vertes et rousses en France. Ça existe.
Il y en a très peu et effectivement, nous, on a fait le choix de travailler avec une maison française qui s'appelle la maison Artus, qui est à côté de Noirmoutier.
C'est bien de citer les producteurs.
Bah ouais, il faut.
Très important. C'est hyper important. Pas de cuisine sans producteur. Qu'est-ce qu'on peut faire, Amandine Chéniaud, vous aussi la chef du restaurant Pouliche à Paris, dans le 10e arrondissement.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là?
On va commencer par les croissants. On va les ouvrir en deux et puis on va les garnir. Donc on va en faire quelques-uns avec de la béchamel, du jambon comté et un petit peu de truffe. Et on va en faire avec le petit mélange à escargot que j'ai ramené ici.
Oh, ça part bien, les croissants pour le dimanche midi, moi j'aime bien
exactement.
Ça. On est entre le brunch un petit
moi,
peu.
Moi c'est plutôt le dimanche matin les croissants.
Oui c'est ça, mais là
on
prolonge le plaisir.
On a toujours des croissants qui traînent après, donc
c'est vrai.
Jamais qu'on en faire. Et ben, voilà. Ouais, exactement, dans ce sens-là, c'est parfait.
Bon, je sais pas, comment
pas jusqu'au
vous
bout.
Vous ne me laissez pas Jean-Pierre.
Pourquoi vous me laissez, pourquoi vous me laissez travailler?
Ben, c'est parfait.
Mais c'est bien parce que c'est dimanche, l'invité, faut qu'il bosse un petit peu. On se coupe pas, attention.
Ouais.
Alors, on n'est pas en studio, que j'explique à nos auditeurs. Nous sommes dans un endroit un petit peu secret dans Paris, avec une vraie cuisine, comme vous pouvez le voir, Jean-Pierre. Une salle à manger juste à côté. Qu'est-ce que Jean-Pierre Pernaut évoque pour vous, Amandine Chéniaud, quand je vous ai dit en soi, Jean-Pierre ?
Moi, c'est le journal du midi qui déroule tranquillement pendant le déjeuner en famille.
Alors, ben voilà, ça a été le cas pendant 33 ans. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté 33 ans.
C'est pour ça que ça
suffisait.
Marque. Hein.
Ça suffisait, oui.
Pas de regret d'avoir arrêté ?
Aucun regret, non, parce que vraiment, j'ai pesé le pour et le contre avec Nathalie, mon épouse, pendant des semaines et des semaines, pendant le premier confinement, en me disant, bon, allez, j'ai 70 ans, peut-être que j'arrête. J'en ai profité, j'ai vécu des choses extraordinaires pendant 30 ans. L'histoire du monde, ça a été une histoire formidable.
Notre rapport au dimanche, il change aussi en fonction de nos âges. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, enfant, le dimanche ? C'était les devoirs pas faits ? C'était l'angoisse
non.
du lundi ?
C'est l'angoisse du lundi, parce que je vivais dans un petit village en Picardie, que Vauvillers, et le lundi matin, mes parents me conduisaient en pension au lycée. Quand je suis rentré en 6e, c'était en pension. Donc c'était l'angoisse de la pension du lundi, le dimanche soir.
partir de quel âge la pension ?
À partir de 10 ans, quand je suis rentré en 6e.
Ah ouais, tôt, hein ?
Ouais, de 10 à 15 ans, j'ai été pensionnaire.
Bon souvenir ou souffrance ?
Bon souvenir de la pension elle-même. Des études, non, j'ai traîné longtemps, comme je le raconte
dans mon livre
« 33 ans avec vous » qui est sorti il y a quelques mois. Je raconte que je suis resté un petit moment dans les lycées et collèges.
Le dimanche, on aime bien aussi avoir des habitudes, des rituels. Je crois que chez vous, en famille, votre papa, il avait un rituel le dimanche.
Le dimanche matin, quand c'est la saison de la chasse, comme c'est la saison de la chasse qui commence en ce moment, petit déjeuner à 7h, 8h avant son départ à la chasse, mon père nous faisait toujours manger des tripes à la botte de Caen. C'est un vieux souvenir.
Qu'est-ce que vous gardez de votre enfance, comme ça, en Picardie, entre vos parents, votre papa qui était directeur d'une usine de machines-outils, votre maman pharmacienne ?
Vous savez, c'était mon enfance, c'était il y a 60 ans. Je me souviens, ma mère à la pharmacie, il y a des clients qui venaient en voiture à cheval et qui accrochaient le cheval à un petit anneau qui était devant la pharmacie. Il y avait deux ou trois petits anneaux pour les chevaux. Voilà, c'était une époque noir et blanc, voilà, dont je me souviens. On allait en blouse grise à l'école. Et puis, le plat du dimanche, c'était la tête de veau.
Vous regardez souvent dans le rétroviseur ?
Je regarde de temps en temps, oui, parce que ça, quand on a des racines, on cherche tous à ne pas décrocher de ses racines, et moi j'ai toujours été accroché aux miennes.
Et quand vous regardez le petit Jean-Pierre à Amiens qui rentrait en pension et que vous voyez tout ce chemin parcouru, vous êtes devenu le présentateur préféré des Français pendant des décennies. Qu'est-ce que vous vous dites ?
C'est une belle histoire. Enfin, je suis content de l'avoir vécu. J'ai eu de la chance d'être à TF1 et j'ai eu de la chance qu'on m'ait confié ce 13h avec des moyens formidables, d'un réseau de correspondants que j'ai créé en 1988. Personne n'avait pensé avoir des correspondants en région dans les télés nationales. Moi, j'y ai pensé. Et aujourd'hui, ces correspondants font toujours le journal de 13h.
On va en parler des régions et de votre amour des régions. Votre magazine s'appelle Au cœur des régions. C'est le News magazine de Jean-Pierre Pernaut avec un dossier en plus. Alors là, ça tombe bien, consacré à la gastronomie.
Pourquoi nous sommes les champions du monde ? C'est vrai. Alors on essaie dans ce magazine, à notre niveau, de dire à quel point les produits français sont des produits de qualité. Il y a des milliers de restaurateurs qui ont des idées.
Vous confirmez, Amandine ?
Oui, non, c'est clair qu'on a beaucoup d'énergie. On l'a vu là pendant la crise Covid. Fallait quand même se démener pour arriver à naviguer autour des nouvelles réglementations régulières. Et ça fait plaisir de voir les restaurateurs qui sont toujours là et qui réouvrent.
Il y a ça, puis les idées, comme celle votre vraiment. Idée sur les cuisses de grenouilles, en mettant en avant les producteurs. Et il y a partout, dans toutes les régions, y compris en Île-de-France, y compris à Paris, des restaurateurs formidables qui n'ont pas forcément d'étoiles, mais qui sont des jeunes restaurateurs qui se bagarrent pour faire de la bonne cuisine et pour que les gens prennent du plaisir.
Et elle parlait du confinement et de la crise sanitaire. Amandine Chéniaud, chez Pouliche, votre restaurant dans le 10e arrondissement, vous avez joué l'ambassadrice des régions, justement, parce que vous mettiez en avant vos fournisseurs, comme ça, en vendant aussi vos produits.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais ambassadrice de quoi que ce soit, mais moi, c'était inconcevable pour moi de fermer mon restaurant moins de 5 mois après l'avoir juste ouvert. Donc j'ai juste essayé de trouver une façon de rester ouvert et puis de continuer à être un peu le lien social du quartier que j'avais envie d'être.
En vendant des produits bruts aussi.
Exactement.
Pour le coup.
Ouais.
Alors on va continuer de cuisiner, on va continuer de découvrir Jean-Pierre Pernaut à travers son amour des régions, mais à travers pas mal d'autres petites choses secrètes que je ne peux pas encore dévoiler tout de suite. Patrick Rambourg, l'historien de la gastronomie, viendra nous retrouver. On aura de la visite avec Emmanuel Rubin aussi. On fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche, Laurent Mariotte.
Nous revoilà la table du dimanche avec Jean-Pierre Pernaut. En cuisine, Amandine Chéniaud s'active ce dimanche, on va déguster des cuisses de grenouille. Et Jean-Pierre aussi a préparé quelque chose. Il dit quoi ? Un magazine, beau magazine qui s'appelle « Au cœur de nos régions ». Un news magazine tous les deux mois, ça coûte 3,95 €.
Oui, coûte pas cher. Il y a 130 pages, il est gros et c'est le magazine de défense du terroir. Il n'y avait pas de news magazine pour défendre les régions, défendre nos traditions et défendre les gens qui vivent dans les régions tout simplement, avec deux gros dossiers sur des choses qui énervent un peu et puis des belles choses qu'on met en avant, comme je les ai mises en avant si longtemps dans le journal de 13h et aujourd'hui. Sur le numérique, sur la JPPTV, qui est une plateforme où il y a des milliers d'heures d'images sur les traditions, le patrimoine, les régions, la gastronomie aussi. Et là, dans ce numéro 1 d'Au cœur des régions, mon magazine de presse écrite, on met en avant la gastronomie, justement.
Alors, on en parlera tout à l'heure avec Patrick Rambourg, que vous interviewez dans le magazine, qui est historien de la cuisine française et de la gastronomie. On y reviendra, mais je voudrais qu'on parle justement de ce deuxième numéro. Le premier était un succès, donc on souhaite la même chose pour le deuxième. Dans l'édito du deuxième numéro que vous signez, vous parlez de défense de nos terroirs. Ils sont menacés, nos terroirs ?
Oui, pas dans tous les domaines. Il y a, par exemple, dans le domaine de la cuisine, des produits, ça se développe. On s'est aperçu au moment du confinement à quel point les producteurs étaient importants pour faire vivre tout le monde. Et on en a profité. La vente directe a éclaté. On appelle ça des circuits courts maintenant, mais moi, j'ai toujours appelé ça la vente directe. Mais il y a des secteurs où les régions sont menacées, où les régions ont toujours le sentiment que les décisions prises à Paris sont prises sans tenir compte de la vie des gens dans les régions. On se sent oublié. La fracture territoriale, elle est toujours là. C'est elle qui avait déclenché, vous vous souvenez, la crise des Gilets jaunes il y a 4 ans.
Vous l'aviez senti, cette crise dans le 13h à l'époque.
On avait senti que les gens en région ne supportaient pas les 80 km/h. C'est une décision de Parisien, ça. Et aujourd'hui, les 30 km/h, c'est aussi...
On en reparlera tout à l'heure.
C'est aussi ridicule. Mais ce n'est pas que Paris. Il y a plein de villes.
Oui, Nantes, Toulouse, absolument.
Nantes, Toulouse, Nice qui veut s'y mettre. Donc, ce n'est pas un problème politique. C'est un problème... C'est complètement idiot. Mais bon, bref, pourquoi, on ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Les motos à 30 km/h, elles tombent. Bon, ouais. Et puis les voitures à cheval, elles passent devant.
On approfondira le sujet tout à l'heure.
Je vais réagir sur l'actualité. Les régions se sentent un peu menacées. Et là, par exemple, des Parisiens décident qu'il faut construire des milliers d'éoliennes. Eh bien, ils ont bon dos, les Parisiens. Il n'y a pas d'éoliennes en Île-de-France. Mais en Picardie, il y en a des centaines, des milliers. Et on ne peut plus supporter les éoliennes. Il y a des problèmes sanitaires qui se posent. Pourquoi il n'y a pas d'études sanitaires ? Il y a un coût absolument exorbitant des éoliennes. Elles fonctionnent un jour sur trois. Elles ne servent à rien.
Ça fait du bruit.
Elles ne sont pas efficaces. Ça fait du bruit. Les gens ne dorment pas autour. Donc c'est bien beau de dire vive les éoliennes. Mais quand on en a une au-dessus de chez soi, on ne peut pas vivre avec.
Vous donnez des chiffres, d'ailleurs, dans le magazine. Un kilowatt éolien consomme 8 fois plus de béton, 20 fois plus d'aluminium et 26 fois plus d'acier qu'un kilowatt nucléaire.
Ben oui.
Voilà. Bon, alors, le nucléaire, il y a un autre souci, c'est le traitement des déchets quand même.
C'est un souci avec le traitement des déchets, mais la France est l'un des pays du monde qui pollue le moins. Et quand on parle de réchauffement climatique, de lutte contre les pollutions qui réchauffent la planète, la France est un modèle du genre.
Alors, on cuisine au nucléaire, nous, on cuisine à l'électricité avec Amandine Chéniaud aujourd'hui. Alors, on revient sur la recette, la recette du dimanche, Amandine. Redites-nous, ouais. On fait de jolis croissants.
Ça sort du four, là.
Ça sent bon. Hein.
Ouais, ça sent bon. C'est des croissants farcis, jambon, fromage et truffes.
Wow.
En fait, c'est un peu une façon d'éviter de faire un bête croque-monsieur. Pour moi, ça remplace un peu ce côté gourmand, un peu avant midi, où tu as envie de manger un truc en même temps facile et en même temps...
Réconfortant.
Réconfortant. Regarde-moi, avec le bon comté là, qui est en train de couler, de fondre.
Et alors, au son déjà, on a envie. Mais je peux vous dire que quand on les voit, les croissants, avec les truffes dessus...
Voilà.
Truffe d'été, là, pour le coup,
envie.
Encore.
Bah oui, parce qu'on n'est pas encore en saison
de truffe.
Mais évidemment, en saison de truffe, on ira faire de la truffe noire. Et là, sur le côté, il y a la version à l'escargot.
Ah ouais.
Donc, on fait un petit mélange d'ail revenu, persillade, on met les escargots, on lisse ça avec un petit peu de béchamel. Et ça, c'est assez dément.
Ça, c'est malin parce que ça permet de donner une seconde vie à nos croissants de la veille, par exemple.
Exactement. Hein,
parce qu'on jette énormément, on gaspille.
Je mange pas les escargots.
Vous êtes là pour ça, Jean-Pierre. Tiens, moi, je vais goûter.
C'est peut-être un petit peu chaud, faut faire attention.
Oui, vous brûlez pas.
Mais que c'est bon. J'ai commencé par les escargots et en fait, j'ai commencé par la truffe.
On revient sur les ingrédients que vous mettez à l'intérieur, Amandine Chéniaud, parce que c'est aussi une façon de mettre en avant nos régions. Qu'est-ce qu'on trouve alors dedans ?
Alors, sur celui à l'escargot, on a les escargots du Perche.
Ouais.
Avec le persil, l'ail, la petite béchamel et le croissant de la boulangerie Pimpin qui est juste en face du Café de Luce.
Très bien, dans le 18e.
Exactement. Et sur notre croissant jambon, donc on a le croissant. Toujours de la boulangerie, le bon comté, un bon vieux comté, du jambon Prince de Paris, donc fait à Paris, et une petite truffe.
C'est le dernier jambon artisanal de Paris.
Et tout ça passé au four.
Ouais, passé au four.
Combien de temps ?
Ben là, ça fait quoi, 4 minutes, à peu près.
C'est du rapide. Et vous pouvez le faire, Jean-Pierre.
Oui.
En rentrant à la maison pour ce soir, en famille, vous pouvez le faire. Ouais. Je vous promets.
Et je connais personne qui n'aime pas ça. Hein.
Non, mais ça, c'est délicieux. Il y a un côté régressif, un petit peu comme le croque-monsieur. C'est ça qu'on aime.
Exactement.
Avec la crise sanitaire, Jean-Pierre, les Français ont redécouvert leur pays. On l'a vu. Vous avez mis, vous, nos régions en avant pendant plus de 30 ans. Beaucoup se sont moqués de vous à cette époque. Et aujourd'hui, toute la presse accorde plus de place aux initiatives régionales.
Oui.
Moquer et imiter, quoi.
Non, moquer et imiter, je crois qu'on s'est aperçu de l'importance des régions. Les médias étaient enfermés dans Paris jusqu'à il y a une trentaine d'années, parce qu'on n'imaginait pas qu'en dehors du périphérique, il y avait une actualité, il y avait des gens qui faisaient des choses. Mais petit à petit, j'y ai contribué, moi, au 13h, en étant l'un des premiers à me battre pour ça, on m'a traité de fou. Et puis après, tout le monde s'y est mis. Rendez-vous compte, je me souviens d'une tempête en Bretagne qui avait détruit énormément de forêts. En 1987, la forêt de Brocéliande avait été complètement effondrée. Aucun média national n'en a dit un mot. Ça m'énervait. En revanche, il tombait deux flocons de neige sur le pont de l'Alma, c'était l'ouverture des journaux télévisés. Et ça m'énervait profondément. Et c'est pour ça que les patrons de TF1 m'ont demandé de prendre le journal de 13 heures en essayant de mettre au point un système pour parler des régions.
Vous parliez des décisions prises à Paris tout à l'heure quand on parlait des éoliennes. Par exemple, vous pensez qu'il y a deux France, qu'il y a une France parisienne et une France des régions, qu'il y a une France d'en haut, une France d'en bas ?
Oui, il y a une France d'en haut, une France d'en bas. Il y a des mesures en ce moment sur l'automobile, par exemple. Je sais que les Parisiens, apparemment, sont favorables à aux 30 km heure, aux travaux qui empêchent les voitures de rouler, etc. Les Parisiens, ils ont le métro, ils ont des tas de choses pour se déplacer. Qui vient en voiture à Paris ? Ben, les gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir à Paris. Hein. Les artisans qui viennent travailler, les commerçants qui viennent vendre sur les marchés. Mais ils viennent avec leur petite camionnette diesel qui sera interdite dans un an. Mais attends, c'est quoi ces décisions de citadins ? S'il n'y a plus de camionnette diesel, il n'y aura plus de marché à Paris.
Ça vous chauffe, hein, les limitations de vitesse, ça vous chauffe.
Non, ça me chauffe parce que c'est stupide. 30 km/h, ça n'a aucun sens.
Il y a d'abord en plus une étude indépendante qui montre qu'une voiture pollue plus à 30 km/h qu'à 50 km/h en ville.
En plus, on pourrait se dire, d'accord, les Parisiens, on aura le bol des voitures, je pourrais le comprendre. Mais on aurait pu prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire dire, OK, on va créer des parkings aux entrées de Paris. Moi, j'habite en banlieue parisienne à 25 km de Paris. Je n'ai pas de gare chez moi pour venir travailler. Je suis obligé de prendre ma voiture. Je voudrais bien la déposer dans un parking à l'entrée de Paris. Il n'y a pas de parking. Donc, je rentre dans Paris avec ma voiture à 30 km/h. Donc, je vais me faire allumer parce qu'on ne peut pas rouler à 30. Donc, c'est une pompe à fric, en fait.
Ces réactions spontanées, là, comme vous le faites en ce moment, là, à la table du dimanche, on les sentait dans votre journal de 13 heures. Hein. On sentait votre petit œil qui frise, le petit clin d'œil, la petite réaction. C'est ce qui vous a rendu, à mon avis, aussi très proche des téléspectateurs.
Parce j'essaie d'avoir des réactions de bon sens, en fait.
Votre guide, c'était le bon sens, en fait.
C'est le bon sens, c'est pas la langue de bois. Si quelque chose m'énerve, je le dis. Si quelque chose me paraît idiot, je le dis.
Et comment réagissait la direction parfois quand vous donniez votre avis ? Il y avait des petites remontrances ou on vous laissait
non,
faire ?
Non, on me laissait faire parce que je n'ai jamais pris parti pour que quoi que ce soit. Je fais des remarques de bon sens. Par exemple, je dis, tiens, c'est bizarre, le pass sanitaire est obligatoire pour aller au golf, tout seul, mais il n'est pas obligatoire pour monter et s'entasser dans le métro. Je pose la question, ça me paraît idiot. C'est une réflexion de bon sens, c'est pas une remarque politique.
Dans la presse, à propos de cette spontanéité, justement, vous aviez déclaré autour des réseaux sociaux que quand vous dites un jour de grève dans l'éducation, que c'est une galère pour les parents, ça se transforme en Jean-Pierre Pernaut est contre la grève, quoi, en fait.
Oui, tout à fait, alors que c'est vrai. C'est tout, c'est tout.
C'est le père de famille qui s'exprime.
J'ai toujours eu des réflexions de bon sens. Et en plus, avec mes origines rural et provincial, dont je suis fier. Je ne suis pas parisien, je ne connais pas Paris, j'y travaille depuis 30 ans, mais je ne connais pas Paris. Donc je connais mieux Amiens, je connais mieux mon village, je connais mieux les régions où j'essaie de me balader, où les régions parlent par les reportages des correspondants que je peux regarder ou initier. Voilà, donc c'est ça. Et puis on essaie maintenant, dans ce magazine de presse écrite, de retranscrire cet état d'esprit de défense des régions.
Alors Jean-Pierre, nous sommes dimanche midi, c'est le déjeuner du dimanche. Le but du jeu, c'est d'inviter des gens pour faire ripaille, pour discuter, pour que la parole circule, comme on dit. Eh bien, je vous présente quelqu'un qui est en train d'arriver. C'est Emmanuel Rubin, qui est critique gastronomique que vous avez découvert la semaine dernière. Emmanuel Rubin, Jean-Pierre Pernaut.
Enchanté.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, tiens, Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Rubin ?
Il fait partie de notre vie, de notre patrimoine. J'ai forcément regardé le journal de 13 heures.
Ça me rajeunit pas,
j'ai commencé
tout ça.
À regarder, j'étais ado. Et ça, c'est pas original de le dire. Ce qui est original, en revanche, c'est de durer.
Alors, comme Jean-Pierre, vous êtes attaché à certaines traditions, Emmanuel Rubin.
Hein ? Tout à fait. Vous parliez des produits qu'il fallait défendre et qui étaient parfois menacés. Il n'y a pas que les produits, il y a aussi les manières de table. Je vais vous parler de quelqu'une qui est en train de disparaître et ça commence à sérieusement chauffer.
Oui, ce serait la nappe.
C'est la nappe.
Ça vous agace. On se retrouve juste après la pause avec tout ce petit monde. Bon dimanche midi sur Europe 1.
Europe 1, 11h, midi 30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà à la table du dimanche avec Jean-Pierre Pernaut. Vous êtes sur Europe 1. Nous ne sommes pas en studio. Hein. Nous avons trouvé l'adresse idéale. Une cuisine d'un côté avec un grand plan de travail. On est avec Jean-Pierre. Amandine Chéniaud au fourneau et une salle à manger à côté.
Oui, donc c'est magnifique. Moi, je suis content déjà. Et
le petit croissant
aux escargots ou aux truffes avec du jambon, C'était délicieux. Donc j'ai hâte de voir la suite.
C'est pour donner une deuxième vie. Bah, la suite, vous la connaissez. On en a parlé avec Amandine Chéniaud. Ce sont des cuisses de grenouille, parce que vous adorez ça.
Oui,
et que c'est
ça.
Un plat qui est en train de disparaître de notre gastronomie. Donc on va s'y intéresser aussi avec un
historien. Ça me rappelle
un historien.
Qui, je ne sais pas s'il existe encore, où j'allais quand j'étais enfant avec mes parents, qui s'appelait la Grenouillère.
Dans le Pas-de-Calais.
Qui était dans le Pas-de-Calais.
Bien sûr.
Et où on mangeait des cuisses de grenouille absolument délicieuses. Est-ce qu'elle existe encore?
Ça existe toujours. C'est le fils qui a repris. C'était Roland Gauthier, le papa.
Ça me rappelle mon enfance, mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Eh bien, aujourd'hui, Alexandre... Oui, ça vous émeut d'être donc pour vous parler de ça.
Ah oui, je suis tout ému.
Oui, parce que la cuisse de grenouille, c'est quelque chose que vous allez manger en famille?
On mangeait en famille quand on allait à la Grenouillère. Mais le plat du dimanche chez moi, ce n'était pas les cuisses de grenouille, c'était la tête de veau.
Alors, la Grenouillère, ça existe toujours. C'est à la Madeleine sous Montreuil, juste en dessous Montreuil-sur-Mer. Et c'est Alexandre Gauthier, le fils de Roland, qui est toujours en cuisine et en salle, le papa. Et Alexandre Gauthier a 2 étoiles au Michelin aujourd'hui. Il fait partie vraiment de la relève de nos chefs cuisiniers. Avec une cuisine audacieuse.
Il y a plus de 50 ans
déjà. Eh bien, il faudra y retourner parce que vous allez voir, ça a bien changé. Hein. Alors, ben, on va justement se mettre à table avec quelqu'un qui connaît bien les restaurants aussi. C'est le critique gastronomique Emmanuel Rubin que vous avez découvert la semaine dernière à cette table. Tenez, installez-vous là, Jean-Pierre. Vous serez bien. Rebonjour, Emmanuel Rubin.
Rebonjour.
La Grenouillère, une belle table. Hein.
Très belle table, très très belle table. Et en plus, vraiment très moderne, mais moderne, pas mode. Et la modernité inscrite dans son terroir, il a fait à la Grenouillère un hôtel au-delà de l'auberge. Et l'hôtel, c'était des territoires de chasse. Avec notamment des cabanes, vous savez, où les chasseurs tiraient les...
Oui,
et c'est
bien
dans
bien.
Ces cabanes-là qu'il a réinstallé ses chambres. Donc non seulement il y a un grand chef, mais il a installé une manière d'écologe dont on parle aujourd'hui.
C'est
il
c'est
est vraiment
huttes.
Dans la...
C'est des
huttes.
C'est les richesses de sa région.
C'est impressionnant.
C'est les richesses qui ont pris le paysage.
Et le restaurant, la salle de restaurant, il l'a travaillé un peu comme une forge de forgeron.
Oui.
C'est pas tant.
Et alors, c'est pour ça, c'est important que vous parliez de l'environnement. Parce que la cuisine, c'est à la fois ce qu'on mange, mais c'est aussi l'environnement. D'où l'importance des paysages, d'où l'importance d'arrêter vite de construire des éoliennes qui détruisent nos paysages.
C'est vrai. Alors là-bas, il n'y en a pas encore trop autour de la Grenouillère.
En baie de Somme, non, parce qu'on n'est pas loin de la baie de Somme.
Oui.
Mais demandez en baie de Saint-Brieuc ce qu'ils en pensent. Ils n'ont pas l'air d'être très contents.
Ah non, ils ne sont pas contents,
non,
les
pas
pêcheurs.
Du tout, non,
là où il y en a, les gens ne sont pas contents.
Et en plus, ça vraiment met la pagaille au niveau des poissons et au niveau de l'environnement aussi dans la baie de Saint-Brieuc.
Hein. Et les éoliennes en mer, justement, risquent de détruire énormément de poissons parce que pour eux, quand on construit des éoliennes en eau profonde, il faut taper pour casser la roche et la construction de l'éolienne est une catastrophe pour la faune.
Alors Jean-Pierre Pernaud est remonté contre les éoliennes et vous, Emmanuel Rubin, vous êtes remonté contre la disparition des nappes dans les restaurants.
Eh oui, parce qu'on parlait aussi de ces terroirs qu'il faut sauver, de ces produits qui se faisaient. Il faut aussi un peu sauver les manières de table. C'est d'ailleurs le paradoxe français. Vous savez, on aime à vanter le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO de notre repas français et pas de notre cuisine. Et dans le même temps... Ça fait 30 ans que je fais des restaurants, un restaurant à raison de 6 restos par jour. Autant vous dire que je pratique ça comme un sport de combat. Bien, moi, je la vois disparaître. Alors, je vais vous expliquer, il y a une raison. Parce qu'au départ de l'action, c'est parti d'un bon sentiment. Milieu des années 90, fin des années 90, toute une génération de jeunes chefs sont un peu engoncés dans la gastronomie française, parisienne, les étoiles Michelin, les fourchettes à 10 dents, les moquettes triple épaisseur. Ils ont envie de simplifier les manières de table. Ils vont créer la bistronomie, c'est-à-dire ces bistrots qui sont belles franquettes, bonnes franquettes, mais avec une belle cuisine. Et donc, ils décident de retirer la nappe du restaurant pour que ça soit un peu plus complice, un peu plus convivial, un peu plus comme chez nous.
Moins coincé, moins ampoulé.
Alors, on peut les citer. Hein. C'est Camp de Bord que vous connaissez bien, c'est Gnacchi et Spitard. Ils n'ont pas tort. À ce moment-là, il faut peut-être ouvrir les fenêtres de la gastronomie française qui est un peu renfermée. Le souci, c'est qu'on est passé un petit peu à cette sincérité, de cette sincérité à une filouterie ordinaire. Et ça, il ne faut pas me la faire. La première chose, pourquoi ? D'abord parce qu'ils se répondent tous. Moi, j'adore les chefs, mais ils aiment bien copier sur le tablier et la toque du voisin. Et deuxième chose, je connais bien, je suis fils de restaurateur, donc on ne me la fait pas. Pourquoi ils ont tous arrêté ? Ils arrêtent tous de faire des nappes. Parce que vous savez que la nappe, les serviettes, c'est l'un des pôles et des postes les plus coûteux d'un restaurant,
oui,
ce qu'on appelle
cher.
La blanchisserie.
Mais oui, ça coûte cher.
Mais il y a de la sincérité quand même dans cette
façon
de tirer la nappe.
Pour certains, mais je vais vous dire, moi, on parlait de manière de table et aussi de culture. La nappe, c'était quoi ? C'était la politesse de l'art de recevoir à la française. La nappe, c'est aussi des arts de la table, des tisserands, tout un tas de choses. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, moi, je veux bien le petit bistrot de quartier, je veux bien le petit café qui simplifie les manières. Mais aujourd'hui, c'est dans tous les grands restaurants. L'un des plus grands restaurants qui a ouvert au printemps dernier à Paris, à la Fondation Pinault, avec deux chefs, le père, le fils, les Brasses. Le restaurant s'appelle La Halograin, c'est superbe. Le décor, faut voir. Quand vous arrivez, alors là, on mixe le terroir, mais on vous dit que le couteau a été forgé à l'aïeul, très bien. On vous demande du doigt de toucher le grain de la céramique de l'assiette, très bien. Il n'y a pas de nappe. Simplement dans l'addition. Elle, l'addition, elle est bien nappée. Hein.
C'est marrant, j'avais jamais remarqué, c'est vrai, la disparition des nappes. La nappe, ça donnait un aspect un peu solennel. Mais même dans les familles, hein, y a pas que dans les restaurants autrefois.
Bien évidemment, mais elle a disparu des familles.
Le dimanche ou pour les repas de famille, à la maison, on mettait des nappes. Maintenant, c'est vrai qu'on ne met plus de nappes.
C'est vrai, ça a disparu. Mais il y a un retour de certaines nappes.
Bien
aussi,
évidemment, il faut être positif. Il y a toujours ceux qui sentent qu'il faut prendre le contre-pied. Et c'est vrai qu'on commence à revoir quelques nappes. Alors à Paris, dernièrement, une brasserie de la rue de la Bastille qui s'appelle La Grande Brasserie. Très joli décor, mosaïque. Jeune chef, percutant, lui s'est dit, non, quand même, vu l'addition que je dépose, le restaurant, c'est un moment un peu extraordinaire. C'est justement pas le comme à la maison. Eh bien, il a endimanché ses tables. Et c'est vrai que ça fait plaisir.
Endimanché les tables, c'est une belle expression. Ouais. Hein,
et je descends cet été. Alors, je m'arrête. Une première étape, Bouchon Lyonnais. Vous connaissez Daniel et Denis.
Chez Joseph Viola, absolument.
Voilà. Vous avez cette fameuse... Lyon. Alors, c'est le Bouchon Lyonnais avec cette fameuse nappe à carreaux, cette nappe Vichy. C'est un monument, c'est une carte postale. Mais il y avait toutes les générations dans le bouchon. Les gens étaient ravis de la retrouver. Je descends du côté des Galières avec un jeune chef que j'aime beaucoup, Christopher H. Alors on est dans un petit bistrot. Et il y a quand même le prix, c'est un étoilé Michelin. Pas de nappe. C'est dommage. Je dis que le nappe, pour moi, vous savez, c'est les dessus chics de la gastronomie française. Faut arrêter de nous prendre pour des truffes, quoi.
Eh bien, alors, on va remettre la nappe, on va ressortir la nappe à la maison, au moins, hein, Jean-Pierre Pernaut.
C'est original, cette rubrique, ce que vous venez de dire, parce que j'y pense pas, on n'y pense jamais. Et c'est vrai pourtant, hein, c'est vrai, cet aspect solennel du grand repas qu'on faisait le dimanche avec
le
une
toucher,
nappe.
Voilà, on touche une belle nappe. Qu'est-ce qu'elle en pense, Amandine Chéniaud, tiens, justement, de la nappe, de l'absence de la nappe?
Il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien de temps en temps, effectivement, le dimanche, et exactement, avoir une jolie nappe choisie. J'ai une très jolie collection, d'ailleurs, à la maison. Mais c'est vrai que dans les restaurants, on a fait le choix de pas napper. En revanche, on a des très beaux plateaux de table.
Des très belles tables. J'ai déjeuné chez vous, chez Pouliche, dans le 10e rue d'Anguin cette semaine. De jolis plateaux en marbre avec une belle vaisselle et de belles serviettes.
Tout à fait.
Et voilà, ça
compte. On va pas vous tirer la serviette non plus, dis donc. C'est bon.
Non, mais elles sont en papier, elles sont en tissu. On en est où dans notre recette alors, Amandine?
Je mets les cuisses de grenouille en route.
Oh là là, okay. Les cuisses de grenouille en route pour Jean-Pierre Pernaut. Trucs ce dimanche midi. On revient juste après la pause. Et on va vous faire réagir à l'actualité de la semaine, tiens Jean-Pierre, parce que le dimanche, on a le temps comme ça un petit peu de commenter, de regarder ce qui s'est passé au niveau de l'actualité cette
volontiers
semaine. Ah, il a l'œil qui frise. A tout de suite et bon dimanche midi sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bon dimanche, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, toujours avec Jean-Pierre Pernaut. Oh, vous entendez?
Mais c'est un bonheur d'être avec vous dans cette émission qui ressemble. Là, on est à la cuisine, on est passé à la salle à manger, on attend le repas avec impatience.
Et on entend chauffer le beurre, c'est ça, Amandine Chéniaud, pour les cuisses de grenouille de Jean-Pierre Pernaut?
Je les mets dans la poêle à l'instant.
Redites-nous d'où elles viennent, ces belles cuisses de grenouille, parce que c'est vrai que ça fait toujours polémique quand on parle des cuisses de grenouille. Et on a de beaux élevages en France. Hein.
C'est la maison Artus, à côté de Noirmoutier.
Voilà, de belles cuisses de grenouille qu'on est en train de faire saisir et chauffer pour Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, vous êtes venu nous voir avec votre magazine Au cœur des régions. Il y a un dossier sur la gastronomie française, on en parlera tout à l'heure avec Patrick Rambourg, historien de la gastronomie qui sera avec nous.
Mais je vais pourquoi dans le monde entier on aime la gastronomie française et pourquoi elle est au...
C'est une référence
mondiale.
Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu d'actualité comme vous le faites dans ce magazine. C'est vrai que le dimanche, on a un petit peu plus le temps de commenter l'actualité de la semaine. Vous prenez le temps de lire la presse un petit peu le week-end?
Pas vraiment le week-end. Non, je lire la presse, non. J'écoute pas mal les chaînes d'infos, notamment la mienne, LCI, où j'ai redémarré cette semaine ma saison avec une émission hebdomadaire sur l'argent. Ça me rappelle combien ça coûte d'autres fois.
Exactement, combien ça coûte qui manque. Hein.
C'est dorénavant le vendredi. Donc j'écoute beaucoup les chaînes d'infos, les journaux télévisés de TF1, de Marie-Sophie, d'Anne-Claire le week-end, que j'adore.
J'ai lu en préparant l'émission que votre vocation de journaliste serait née après avoir lu un article sur le pape. C'est vrai ça?
Oui, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la mort du pape Jean XXIII. J'ai commencé à découper les articles de journaux que recevaient mes parents. C'était le Courrier Picard, c'était Paris Match. Je découpais, je faisais des dossiers de presse et je sais pas, j'ai eu envie à ce moment-là de me dire, tiens, c'est marrant, les journalistes qui racontent ça, c'est fabuleux. Et puis, un peu après, il y a eu l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et même chose, j'ai fait des dossiers de presse en me disant, mais qu'est-ce que j'aimerais être journaliste et raconter ces grands événements.
Et vous êtes retrouvé au Courrier Picard, donc le journal local, et ensuite à TF1. Ouais. Comment vous êtes passé du Courrier Picard à TF1?
Oh, ben parce que l'école de journalisme de Lille que j'avais faite m'avait fait faire un stage à France Inter, et que j'avais entre-temps travaillé à la station régionale l'ORTF à l'époque à Amiens, où j'ai appris mon métier. J'ai travaillé comme pigiste pendant 3 ans, notamment les week-ends. Et puis après, un stage à France Inter. De France Inter, je suis passé au journal national de la 3. Les bureaux étaient en face de France Inter, à la maison de la radio. Et le rédacteur en chef de la troisième chaîne est devenu rédacteur en chef de TF1 le jour de la création de la chaîne, le 6 janvier 1975. Et j'ai été embauché, je suis arrivé à TF1 le jour de la création de la chaîne.
Journaliste historique de TF1.
Ah ouais, un vieux même, un peu partie des meubles.
Dans votre livre « 33 ans avec vous » paru chez Michel Lafon, vous citez une phrase d'une membre du CSA qui disait « Le journal de Pernaud, c'est un peu la France des sabots et des forgerons, mais il faut bien aussi qu'elle soit vue. »
Oui, cette condescendance m'énervait.
Ah, il faut bien, il est violent.
Qu'un membre du CSA en plus, ancienne journaliste en plus, se permettre de faire preuve d'une telle condescendance m'avait énervé.
Oui, il est chaud, hein, Jean-Pierre Pernaud.
Je ne supporte pas, moi, que des gens commencent se permettre à critiquer les régions, c'est nul, les régions, la France des sabots. Non, mais attends, de quoi elle se moque, cette nana?
D'où ça vient, d'où ça vient, cet amour des régions?
Ben, ça vient, je ne sais pas, peut-être de mon enfance en Picardie, de mon village, de mon jardin, des moutons qu'élevaient mes parents, des poules, des canards, des pigeons qu'il y avait dans mon jardin. Voilà, c'est l'amour de la nature. C'est l'amour des animaux, c'est l'amour des gens qui y vivent, des commerçants, etc. Petit à petit, des commerces qui disparaissent dans les villages. Ben, voilà. Ça m'a fait créer SOS Village,
qui est un succès. Combien de boutiques, combien de petits commerces ont revu le jour grâce à SOS Village?
On ne peut pas donner de chiffres précis parce qu'il n'y a aucun organisme qui s'en occupe, mais les commerçants qui reprennent ou les mairies qui recréent des commerces dans leur village nous alertent. En gros, depuis une quinzaine d'années, on recrée entre 100 et 200 commerces chaque année.
C'est énorme.
C'est pas mal. Et il y a actuellement, sur le site internet qui continue avec le journal de Marie-Sophie Lacaro, il y a à peu près 10 000 annonces de commerces qui cherchent des repreneurs.
On va parler d'actualité, Jean-Pierre. Je vous donne des titres de la semaine et vous me dites ce que vous en pensez. Retrait des troupes américaines en Afghanistan. Quitter l'Afghanistan était la meilleure décision pour l'Amérique, a déclaré Joe Biden.
Oui, je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai été effaré, comme tout le monde, par ces images de gens qui s'accrochaient aux avions pour essayer de quitter l'Afghanistan. Et c'est un crève-cœur d'imaginer que les filles en Afghanistan sont maintenant enfermées, qu'elles n'ont plus le droit de sortir autrement que masquées et accompagnées, qu'elles n'ont peut-être plus le droit d'aller à l'école. Enfin, on va suivre ça de près parce que c'est effroyable qu'on impose ça au 21e siècle. Mais bon, c'est surtout ces images de l'aéroport de Kaboul, l'attentat en plus derrière qui a tué 75 ou 80 personnes qui voulaient fuir l'Afghanistan. Bon, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'enfuir. J'espère qu'il y aura des accords conclus pour permettre aux gens qui ont besoin de partir, de partir.
Ça vous intéresse, l'actualité internationale?
Toujours. Là, on est à quelques jours du 20e anniversaire du World Trade Center. J'ai été le premier journaliste à faire un journal télévisé en direct là-bas. Et c'est des souvenirs épouvantables, quoi. Quand on se retrouve dans Manhattan, juste après l'effondrement de ces tours, la poussière partout, les militaires dans les rues, la peur d'un autre attentat, le climat de guerre qui a existé dans les jours qui ont suivi. J'étais en direct là-bas, PPDA aussi. On a fait les deux premiers journaux télévisés en direct de New York. Puis tous les événements que j'ai vécus pendant mes 33 ans, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, ça ne nous rajeunit pas, jusqu'à très récemment, la mort de présidents français comme Chirac, Giscard d'Estaing. Et voilà, donc j'arrête au moment du coronavirus, moi.
Autre titre dans l'actualité, Emmanuel Macron à Marseille, 3 jours en immersion dans la capitale phocéenne.
Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a énormément. Apparemment, on a encore entendu parler cet été d'un gamin de 14 ans qui avait été tué. Encore des bagarres entre dealers, la drogue, la misère, le manque d'emploi, les écoles délabrées, etc. Il y a énormément de choses à faire. Donc c'est bien qu'il le fasse. Alors tout le monde dit qu'il a entamé sa campagne électorale. C'est sans doute vrai, mais c'est bien de le faire.
La fin du télétravail obligatoire dans les entreprises privées depuis mercredi.
Oui, ça, c'est une bonne chose, parce qu'il faut reprendre le chemin du boulot. Comme les enfants ont repris le chemin de l'école, il faut reprendre le chemin du boulot. Le télétravail, c'est bien, mais à un moment, il faut que ça s'arrête.
C'est pas du boulot, le télétravail?
Si, c'est du boulot, mais il n'y a aucun lien social entre les gens. Et moi, je pense qu'il faut du lien social entre les gens dans les équipes, dans toutes les entreprises. C'est le cas à TF1, c'est le cas chez vous, c'est le cas partout. On a envie d'être avec, de discuter avec les gens. Tout seul chez soi, devant un ordinateur, c'est pas terrible.
plus léger, tiens. 57 mètres, c'est la taille du pâté lorrain réalisé à Lunéville le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle.
Ça,
c'est pas mal. Hein. Hein
ça, ça aurait pu être au JT de Jean-Pierre Pernaut.
Ça, c'est pas mal. Mais alors, comment on fait cuire un pâté de 57 mètres, vous imaginez?
Ils assemblent. Ils en font plusieurs et ils les assemblent. En fait. C'est un grand pulse, effectivement. Ah, c'est bon, pâté lorrain. Ouais. Hein. C'est une belle farce à base de porc, de veau, mariné dans du gris de Toul. Et puis, une pâte feuilletée tout autour. Mais c'est délicieux, ça, le pâté lorrain.
C'est marrant, ces concours avec ces tailles des pizzas géantes, des paella géantes, des pâtés géants.
Alors, ceux-là, ils sont un peu cucu la praline. Mais il y en a, en revanche, des concours dans le monde de la gastronomie. Ça la forge, ça la forme.
Oui, on parlait puis c'est l'occasion de faire la fête.
Il y a ça, et puis c'est aussi là où tu montes ton savoir-faire. On connaît tous le concours des meilleurs ouvriers de France, ouais. Mais c'est aussi vraiment une vitrine d'un savoir-faire. Alors par contre, il y en a qui sont plus effectivement truculents, mais que j'aime bien aussi. C'est la grande tradition de Gargantua, de Pantagruel. Hein. Alors quand on parle de Rabelais, tout de suite, les gens disent « Ah oui, c'est vrai ». Et quand on en parle juste jeté comme ça, le plus grand pâté, tout le monde se marre.
C'est l'occasion, c'est l'occasion de faire la fête.
Exactement.
Ça sent bon, Amandine Chéniaud, ça sent bon ces cuisses de grenouille. On va bientôt pouvoir les déguster dans un instant. Montrez-nous la bonne mine qu'elles ont, tiens. Oh, combien de temps de cuisson, là?
Oh, c'est 5 minutes.
C'est du rapide.
Pas
hein.
Plus.
Ah, ouais. Ah bah non, après c'est trop cuit, sinon. C'est, pas
c'est sec.
Bon, et alors, la sauce?
Du beurre, de l'ail, du persil. Et j'aime bien rajouter un petit peu d'amandes effilées aussi, de temps en temps.
Ah, pour donner le croquant, ouais. Qu'est-ce que ça sent bon. Ah non, elles sont belles, on va les déguster dans un instant. On écoute Aretha Franklin, figurez-vous qu'il y a un biopic qui sort au cinéma sur Aretha Franklin mercredi prochain, le 8 septembre. Europe 1 est partenaire, donc on écoute la grande Aretha et on se retrouve juste après avec les cuisses de grenouille de JPP. Aretha Franklin sur Europe 1 avec Sink. Et puis n'oubliez pas, hein, le biopic sur Aretha sortira au cinéma le 8 septembre. Et nous sommes très fiers à Europe 1 d'être partenaire de ce beau film. Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Soyez les bienvenus à la table du dimanche autour de Jean-Pierre Pernaut. Une cuisine avec une chef, Amandine Chéniaud, en cuisine. Ça va, Amandine? Tout se passe bien? Elle grignote. Si elle déguste, c'est que ça se passe bien. Alors.
Et moi, j'ai hâte de manger parce que c'est un bonheur d'être avec vous, mais j'ai faim, là.
Mais les cuisses de grenouille, on va leur régler leur compte dans un instant. Juste avant, je vais vous faire écouter un micro-trottoir que nous avons réalisé sur un marché. On a demandé aux Français les plats qu'ils avaient envie de déguster avec vous. Alors juste
j'appelle
avant,
pas ça micro-trottoir, j'appelle ça enquête de société.
C'est ce que j'allais dire. Ça vous énerve micro-trottoir, vous hein?
Oui, parce qu'il y a un aspect un peu voilà, oh, bon, allez, micro-trottoir, c'est pas sérieux. Pour moi, micro-trottoir, c'est demander la vie des gens. Et je l'ai fait plein de fois au journal de 13h, j'appelle ça des enquêtes de société.
Eh bien, une enquête de société autour des plats que les Français
bravo,
ont envie de déguster avec Jean-Pierre Pernaut.
Vous avez une idée, vous, de ce qu'on pourrait faire à Jean-Pierre Pernaut? À votre avis, il aimerait quoi, lui, pour déjeuner?
Côte de bœuf et gratin dauphinois.
Côte de bœuf, entrecôte, avec une petite barquette de frites à côté.
Ah, une petite omelette au girolle.
Ah oui?
Ouais.
Un steak frites, par exemple, ou une belle viande.
Un peu de volaille, champignons et un petit bout de fromage.
À la bonne franquette, quoi.
À la bonne franquette.
Si je déjeunais avec lui, déjà, il ferait à manger lui-même.
Ah ouais, d'accord.
Il ferait à manger, c'est pas moi qui lui ferais à manger. Et alors, il me ferait un tartare de saumon, d'accord, avec des avocats.
Vous passez commande, en fait, là?
Bah oui, c'est ça, hein.
Ah, je dirais un bon bœuf carotte, mais je sais qu'il est très franchouillard comme moi.
Regarde, oui, c'est un fin gastronome. Un bon rôti de magret de canard au piment d'Espelette.
Un rôti de magret de canard, piment d'Espelette?
Ouais.
Vous avez l'air hyper informé.
Non, bah oui, parce que je cherche sa femme.
Monsieur Jean-Pierre, je vous offre le saucisson sec du Cantal, fait mes fabrications maison.
Il aime tout, hein?
Ouais.
Bah je pense, oui, ça a l'air d'être un bon vivant.
Et le rôti de magret de canard que votre femme achète. Donc là, on est tombé sur un de vos fournisseurs,
voilà,
en plus.
Le rôti de magret de canard. À ce propos, il y a un magret de canard extraordinaire, un magret de canard au foie gras, que j'achète quand je passe au Pays Basque, chez Pierre Oteiza.
Ah.
Et il a un magret de canard au foie gras, mais alors, c'est à tomber par terre.
Il faut avoir goûté une fois dans sa vie la saucisse aller-retour de Pierre Oteiza, qui est une saucisse
formidable.
Sèche, magnifique, et qui ne reste pas très longtemps en cuisine en général. Quand on a commencé à l'attaquer, on en voit vite le bout, en fait. Un autre son que David Ordonneau a réalisé sur le marché de Versailles, on sait que c'est une grande histoire d'amour entre vous et les Français. Eh bien, quelques réactions des gens sur le marché. C'est pas un micro-trottoir, c'est une enquête de société sur Jean-Pierre Pernaut.
C'est vrai, vous l'aimez bien Jean-Pierre Pernaut?
Oui, très gentil.
C'est vrai?
Très, très gentil.
C'est quelqu'un de sympathique. Très sympathique, très, très convivial, à la portée des gens.
Et j'étais très triste ceux qui partent.
Qui partent de TF1, vous voulez dire?
Oui, c'est ça. Mmh. Vraiment, le dernier jour, c'était très triste.
Ouais. Il vous manque?
Oui, tout à fait.
Ouais,
tout à fait, mais je suis pas la seule. Hein.
Vous aimeriez déjeuner, vous, avec Jean-Pierre Pernaut?
Pourquoi pas?
Vous discuteriez de quoi, vous pensez?
Ah bah de la France, j'aime bien toutes les régions de France.
Vous aimeriez déjeuner avec Jean-Pierre Pernaut?
Ah ouais, ça serait un plaisir. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de très cultivé, qui a vu beaucoup de choses, donc il doit avoir des histoires sympas à raconter, quoi.
Et vous lui raconteriez quoi?
Mes histoires avec mes producteurs de fromage, ça pourrait l'intéresser.
Vous discuteriez de quoi avec Jean-Pierre Pernaut?
Pas du Covid, ça c'est sûr, mais de tout, comment va la famille, de tout, mais pas du Covid.
On en a marre.
Ah, complet.
On en a marre du Covid, Jean-Pierre.
Oh, oui, on a envie de passer vraiment à autre chose.
Vous leur manquez, hein, aux Français, on l'entend, hein, dans ce reportage.
Peut-être un peu, mais bon, là, s'ils me retrouvent dans ce magazine au cœur des régions, ils vont me retrouver bientôt sur TF1 le samedi après-midi, le 18 septembre, avec un très beau magazine sur les Hauts-de-France. Et puis voilà, et puis sur LCI toutes les semaines.
Et puis cadeau, vous leur manquez tellement qu'il y a justement un boucher charcutier qui vous offre un saucisson avec
merci.
Un beau cochon élevé dans le Cantal, là.
Merci, saucisson sec de montagne.
Sentez-moi ça.
Ça sent celui-là, hein, ça sent du vrai. Hein.
Ah, c'est du vrai, ça. Hein.
Ça, c'est du vrai.
Bien affiné, bien sec.
C'est du vrai. Il vient d'où?
Cantal. Il vient du Cantal.
Cantal.
Beau saucisson du Cantal pour vous, Jean-Pierre Pernaut. Un mot sur votre décision quand même d'arrêter le 13h. Vous avez surpris tout le monde parce que c'est vous qui l'avez annoncé. Hein. Vous avez un peu pris de court même votre direction, presque, si je puis dire. Le dernier journal, 8 millions de téléspectateurs, 60% de parts de marché, ça n'existe pas, hein, ça, comme score d'audience.
Oui, mais ça existait avant. Quand il n'y avait que 6 chaînes, on en avait souvent, presque tous les jours, 8 millions à 13h. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir, qui ont eu une petite larme, moi aussi. Bon, c'était plein d'émotions. J'avais pris la décision d'arrêter parce qu'à 71 ans, presque, j'ai pensé que j'avais fait le tour et qu'il fallait... J'avais besoin d'un autre rythme. Se lever tous les matins à 6h du matin, avoir la responsabilité d'un journal de 45 minutes tous les jours et d'un journal autonome. C'est-à-dire que c'est un journal que j'étais seul à diriger, avec la direction de l'information de TF1, bien sûr, pour coordonner les éditions et le travail. Mais c'est un travail très, très lourd, un journal quotidien. Donc Marie-Sophie a pris le relais. Voilà, dans 30 ans, on va voir, il en aura peut-être marre aussi. Donc on a envie, à un moment, d'arrêter. J'ai eu envie d'arrêter. Et voilà, alors que les audiences étaient au top, la popularité aussi. Mais je fais plein de choses.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi votre nouveau rythme? Parce qu'il y a le magazine Au Cœur de Région, il y a l'émission sur LCI, il y a les grands reportages là, le 18 septembre sur TF1, donc vous n'arrêtez pas quand même.
Non, il y a la JVP TV aussi, la plateforme numérique où on voit les plus beaux reportages sur les traditions des régions. Donc j'arrête pas, mais à mon rythme. Je me lève un peu plus tard le matin.
11h, 11h30.
Je rentre chez moi, quand j'entends, je profite de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Voilà.
Eh bien, on continue à vous découvrir à la table du dimanche, Jean-Pierre Pernaud. Dans votre magazine Au Cœur des Régions, vous consacrez un gros dossier à la gastronomie. Pourquoi nous sommes champions du monde? Eh bien, on en parle dans un instant avec un historien de la gastronomie. C'est Patrick Rambourg qui nous retrouve. Bonjour Patrick Rambourg. Il est là déjà, il est en cuisine et il sent...
Bonjour Laurent.
Il sent les cuisses
bonjour
de
Jean-Pierre.
Bonjour.
Emmanuel Rubin, Patrick
Rambourg.
Bonjour.
Installez-vous Patrick Rambourg. Ça fait plaisir de voir que Jean-Pierre Pernaud s'intéresse à la gastronomie française et vous donne la parole dans ce magazine aussi.
Oui, j'étais très très content de pouvoir intervenir dans le magazine Au Cœur des Régions, d'autant plus que la cuisine et la gastronomie font partie de l'identité de la culture française et que chaque région a ses spécificités culinaires, ses spécialités, et que chaque région est très très fière de ses produits du terroir, de cette alimentation. Et on voit bien aussi que les offices de tourisme ont très bien compris l'importance de la cuisine et de la gastronomie et vantent leurs produits locaux auprès des touristes et de tous les voyageurs qui passent et qui visitent notre pays.
Et on voit l'évolution de notre cuisine avec votre livre, hein, qui est un succès. C'est une bible, histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Et la preuve, tiens, avec ces cuisses de grenouilles qui arrivent à l'instant.
Elles arrivent enfin. Moi, j'en pouvais plus.
Elles sont belles, vos cuisses de grenouilles. Oui. On va en parler avec vous, Amandine, parce que ça, et vous aussi, Patrick Rambourg, oui, c'est un plat qui est presque sur le point de disparaître de notre gastronomie française, la cuisse de grenouille.
Oui, on en fait beaucoup moins aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques décennies, on en trouvait beaucoup sur les cartes des restaurants. Et c'était un plat qui était très, très présent dans les familles.
Pourquoi vous avez eu envie de le refaire, vous, aujourd'hui, Amandine?
Parce que, justement, on n'en voit plus beaucoup. Et souvent, quand on en voit, c'est de la cuisse de grenouille surgelée qui vient d'Asie, qui est assez flouteuse, qui est un peu filandreuse. Et moi, j'ai envie de voir ces savoir-faire, ces filières continuer à exister. Et puis surtout, moi, en tant que cliente, j'ai envie de me régaler.
Cuisse de grenouille fraîche élevée en France. On fait une pause et juste après, on revient avec Emmanuel Rubin, Patrick Rambourg et Jean-Pierre Pernaud qui se met à table jusqu'à midi et demi.
Elles sont délicieuses. J'ai déjà goûté pendant que vous parliez. Là.
Laurent Mariotte sur Europe 1. Europe 1. 11h, midi 30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est la table du dimanche autour de Jean-Pierre Pernaud avec un invité qui nous a rejoint, Patrick Rambourg, historien de la gastronomie, sans oublier Emmanuel Rubin, le critique qui met les pieds dans le plat. Et le plat aujourd'hui, justement, il est signé Amandine Chéniaud. Une belle recette de cuisses de grenouille. On le disait parce que c'est un plat qui a failli disparaître, qui a été galvaudé par ces cuisses surgelées qu'on trouve assez facilement, il faut le dire, Amandine.
Oui, hein, complètement. Et puis, moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'avais envie d'en avoir chez moi, d'avoir le plaisir de se lécher les doigts aussi après et puis de saucer avec un bon pain, puisque ça fait partie du plaisir.
Ah oui.
Donc là, on a le pain de Thierry Breton. Mm-hmm. Qui est encore tout chaud.
Alors, les cuisses de grenouille sont devant nous. Elles sont bien charnues, elles sont bien joufflues. Un petit mot sur la recette, sur la progression, les grandes étapes, si nos auditeurs veulent la refaire.
C'est très facile. C'est très, très facile. Moi, j'aime bien juste les fariner légèrement avant de les mettre dans l'huile très chaude. Il faut être généreux. Hein. Ce qui est bon dans les cuisses de grenouille, c'est aussi...
C'est le gras.
Voilà, c'est ce gras, c'est ce beurre. Donc on les huile très chaude. Ensuite, quand on les retourne, on va chercher une jolie coloration blonde, pas trop poussé non plus, on les retourne, on est généreux sur le beurre. Bah, la cuisine au beurre, c'est le bonheur quand même. Hein.
Ah oui, il sent beau, on le sent, voilà. ce beurre frais que vous avez mis au dernier moment.
Une bonne grosse cuillère d'ail haché bien fin. Tout doucement, on baisse le feu, on enrobe tout ça. Au dernier moment, un peu de persil haché et hop.
Ouais, voilà. C'est super facile.
Voilà.
Ouais, c'est ça que j'adore avec le chef. C'est super facile. En fait, c'est compliqué.
Non,
parce qu'il faut une vraie touche. Oui, comme ça dit, comme ça, c'est pas compliqué, mais bien fariné pour pas que ça soit un beignet et juste que ça apporte un peu de. Ensuite, la faire blondir. Moi, vous me donnez ça, mais moi, c'est calcinant en deux minutes.
On joue avec la flamme.
Mais toi, t'es chef. T'es
mais je suis
professionnel.
Pas chef. On est cuisinier.
C'est délicieux, en tout cas.
De beaux cuisiniers.
Et c'est un plat. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un plat moderne.
Oui.
On les a oubliés. Oui. Regardez, il y a de l'appétence, la gourmandise, c'est relevé, les gens aiment bien aujourd'hui relevé. Juste ce côté un peu farine sur la cuisine grenouille, c'est pas un beignet, mais il y a un côté presque asiatisant. On les mange, ça, c'est pas les, elles sont
un petit peu croustillant à la surface.
Moi, c'est un plat moderne.
Oui, mais moderne, mais quand on parle de beurre, quand on parle d'huile, quand on parle de produits bien gras. C'est pas à la mode, ça.
Mais parce que les gens ont une vision du gras. Quand c'est mal cuisiné, tout est mauvais. Mais il y a du bon gras, et quand il est bien fait,
mais
les gens, au contraire...
question d'équilibre.
Exactement. Ils ont la gourmandise de l'appétence. C'est
et
juste qu'on a...
ne mange pas tous les jours non plus des grenouilles.
Non, parce qu'il y a une saison des grenouilles.
Et le plat du dimanche ou le plat de vacances, quand je passais dans ce restaurant de la Grenouillère, près de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais... Et voilà, c'était un souvenir d'enfance. C'était à 60 ans, et voilà.
Moi aussi, j'ai un souvenir d'enfance... Quand on allait avec mes grands-parents paternels à la pêche, et nous, on avait les enfants, donc les petits-enfants, les garçons, on avait donc une sorte de canne à pêche avec un petit bout de laine rouge pour attraper les grenouilles. Donc on était très fiers, on attrapait la grenouille comme ça, sauf que mamie, ma grand-mère, en fait, était derrière, assise devant une table avec un grand couteau. Dès qu'on attrapait la grenouille, on l'a donnée à notre grand-mère, on ne s'était pas rendu compte dans un premier temps que notre grand-mère, avec son couteau, hop, elle est coupée et récupérait les cuisses. Donc, ça nous a un peu surpris, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à manger des grenouilles. Ça ne nous a surtout pas empêché de les continuer à les manger comme ça, avec une persillade et avec du beurre. Et
c'est intéressant ce que vous dites, Patrick Rambourg. Vous êtes historien de la cuisine et de la gastronomie française. Et c'est intéressant parce qu'en France, on a le droit, toujours, on a tendance à l'oublier, mais de consommer des cuisses de grenouilles comme ça qu'on trouve. Mmh. Il y a deux variétés qu'on a le droit de pêcher, si je puis dire, et de tuer soi-même, à condition de les cuisiner pour soi. C'est la grenouille verte et la grenouille rousse. On n'a pas le droit d'en faire de commerce. C'est pour ça qu'il y a des élevages maintenant en France. Mais on a le droit, effectivement, de les cuisiner pour soi à la maison. Patrick Rambourg, vous êtes venu nous voir donc avec ce livre, qui est une réédition d'une Bible, Histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Jean-Pierre Pernaud vous a donné la parole dans son magazine au cœur des régions. On a une idée de quand date cette recette des cuisses de grenouilles, justement?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les cuisses de grenouilles, on en mangeait déjà au Moyen-Âge, puisqu'on a des recettes dans les recueils de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. On les appelait des renoules à l'époque. On l'a trouvé dans les campagnes et puis on l'a prêté au feu de la cheminée. Mais en parallèle, on l'a trouvé aussi sur la table, les grandes tables, la table des grands bourgeois et la table aristocratique. Et là, elle était apprêtée de manière différente, avec des sauces sophistiquées, voire des épices. Au Moyen-Âge, on l'épissait, on y mettait, selon mes souvenirs, un peu de cannelle, voire un peu de safran.
Ah oui,
ah oui, bien sûr. Ce n'était pas un plat du quotidien. C'était un plat qu'on consommait dans une occasion particulière.
C'est un plat qui est presque sur le point de disparaître. Heureusement qu'il y a des chefs comme Amandine Chéniaud, justement, qui lui redonnent ses lettres de noblesse en choisissant une belle grenouille fraîche française en la cuisinant comme ça à la minute. On a des exemples, Patrick Rambourg, de plats qui ont disparu comme ça, en un siècle. Il y en a eu pas mal. Alors, je ne parle pas du Moyen-Âge où on cuisinait du cygne, et ça fait bien longtemps qu'on ne mange plus de cygne et de paon aussi, Emmanuel Rubin. Oui. Mais non, qu'est-ce qu'on a comme grande disparition au niveau culinaire?
En fait, c'est très récent. Je veux dire, entre ce qui se passait dans les années 60, 70, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre cuisine a beaucoup évolué. De nombreux plats qui étaient des plats que l'on trouvait régulièrement sur les cartes des restaurants, des plats qui faisaient référence à cette culture et à cette identité française, ont disparu. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais gamin, le canard à l'orange, on le trouvait partout, sur toutes les cartes à l'orange. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez un canard à l'orange sur les cartes des restaurants? C'est compliqué.
Même le canard tout court, le canard au sang, comme on le fait encore du côté de Rouen.
Il y a que le magret de canard que vous trouvez.
Oui,
vous évoquiez en début d'émission les tripes à la mode de Caen. Moi, je vous franchement, pour les trouver aujourd'hui, y compris à Caen, accrochez-vous.
On a vraiment une évolution du goût et un grand tournant, une révolution entre guillemets, avec la nouvelle cuisine qui a tapé sur le gras, qui a tapé sur la crème, qui a présenté de l'innovation, de la créativité. C'est ce qui s'est passé. C'était nécessaire pour le renouvellement et de la cuisine française.
Mais la nouvelle cuisine dictée entre guillemets par Guémillot à la fin des années 70 avec ses chefs
Bocuse,
Michel Guérard,
Robuchon et autres personnages. Oui.
Mais je ne pense pas que ça ait gagné vraiment la population. Là, quand on parle de ça, moi, je vois des gens à Castelnaudary qui aiment bien leur bon cassoulet bien gras.
Oui, bien sûr.
À Paris, c'est pas la mode, certes, mais là-bas, on continue à en manger, non?
Ou ça dépend des régions. Moi, je pense qu'une déperdition.
La Ligue, on continue à en manger.
Non, moi, je pense qu'il y a vraiment une déperdition, comme
vous dites.
Il faut pas accuser que les chefs.
C'est vrai.
Mais les poteaux auvergnats, vous n'en mangez pas tant que ça. D'abord, il faudrait qu'il y ait encore. Il y a de moins en moins de restaurants, d'auberges sur les bords de route français. Vous parliez des centres-villes, il y a de moins en moins de boutiques de bouche. Et les cuisiniers aujourd'hui, regardez, moi je peux vous dire quand même qu'on est plus dans la burgerisation de l'appétit français, y compris en province et à la campagne, que le reste.
Amandine Chéniaud.
Oui,
non,
d'accord, parce que Il y a aussi quand même beaucoup de chefs qui reviennent justement sur ces fondamentaux de la cuisine. David Radjebert, qui est pas loin d'ici, il fait un...
L'assiette.
Il fait un cassoulet qui est remarquable. Moi, j'ai mis une tête de veau à la carte. Jean-François Piège, c'est pareil. On revient sur ce territoire-là.
David Radjebert, qui a l'assiette dans le 14e arrondissement de Paris. Je vous ai emmené manger une tête de veau, Jean-Pierre Pernaud, il y a quelques temps de cela.
Il faut qu'on y retourne.
C'est une tendance, oui, depuis très peu de temps.
Alors,
la première chose que je dois dire, c'est que ça fait 10 ans qu'ils commencent à réfléchir à refaire, et que les jeunes chefs, tant mieux, le font, c'est 10 ans. Et ensuite, je suis désolé, c'est très... vous savez, ça se passe beaucoup à Paris, il faut bien le reconnaître. Le paradoxe, c'est que les plats de recettes de terroir et de tradition sont à Paris. Arrêtez de me vendre une province fantasmée.
Patrick Rambourg, vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Rubin?
C'est historique, en fait, c'est historique. La cuisine française, elle s'est construite à Paris. La grande cuisine française s'est construite à Paris.
Je pense que la réputation de la grande cuisine s'est construite à Paris, mais la cuisine elle-même, elle existe au fin fond de la Corse, bien avant que les Parisiens découvrent
les cuisines régionales ont une histoire totalement différente, c'est-à-dire que elles n'ont été reconnues en France qu'au 19e siècle, et surtout entre les deux guerres mondiales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une cuisine régionale n'existait pas avant.
Mais quand vous dites reconnue, c'est reconnue par les Parisiens.
Oui, sauf que n'oubliez pas une chose, c'est que dans le passé, pour une bonne partie de la population française, manger était d'abord un besoin et non pas une nécessité. Ce n'était pas un plaisir forcément. C'est-à-dire que si à Paris, on avait tous les produits qu'on pouvait, dès le Moyen-Âge, c'est une grande ville cosmopolite, universaliste, et qui attirait des produits de toute la France et de toute l'Europe. Les autres villes, à peu près pareil, mais quand vous alliez dans les campagnes françaises au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était autre chose. C'est-à-dire que pour manger, il fallait quand même... c'était pas toujours simple. Et ce qui importait le plus les populations de l'époque...
Par exemple, en Auvergne, la potée auvergnate, c'était un plat pas cher que manger les Auvergnats autrefois.
Oui, non, mais tout dépend de ce que vous entendez autrefois. Il y a 100 ans, d'accord, la viande n'était pas accessible à la majorité de la population. On mangeait la viande dans un contexte de fête.
Patrick Rambourg, quelles sont les premières recettes régionales et devenues populaires? Parce que là, je ne parle pas des décennies qui nous précèdent, mais de bien au-delà, en fait. C'est quoi? C'est des pâtés? C'est des charcuteries?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est là qu'on voit l'importance de Paris, parce que notre pays s'est construit quand même sur un centralisme autour d'une grande ville, la capitale Paris, et tout s'est développé progressivement comme ça. Par exemple, les Provençaux, ils avaient très très bien compris, et j'ai trouvé des témoignages dès le XVIIe siècle, des Provençaux qui sont installés à Paris au XVIIe siècle pour vendre leurs produits de Provence, notamment l'huile d'olive et autres. Donc déjà, dès le XVIIe siècle, on avait des produits qui venaient du sud de la France pour la capitale. Pourquoi la capitale? Parce qu'il y avait déjà une clientèle qui était là, qui avait les moyens d'acheter ces produits. On a des villes qui vont trouver une réputation, notamment en envoyant leur pâté sur la capitale, le pâté de Périgueux, le pâté d'Amiens, le pâté de foie gras de Strasbourg, qui a disparu plus ou moins aujourd'hui, et tous ces produits qui montent sur la capitale. Et les artisans...
C'est un pâté de canard.
Oui, c'est ça.
Vous ne l'avez pas dit, mais je le précise.
Oui, c'est vrai. mais tous ces artisans qui évoluent et qui travaillent en province et dans les villes de province, dans les petites communes, ne travaillent que pour certes pour une clientèle locale, mais continuent et arrivent à produire de spécialités de qualité parce qu'ils ont une clientèle des villes et surtout une clientèle parisienne.
On est du même avis, mais je pense que les gens des régions comme moi se disent que avant qu'un Parisien mange une tête de veau, en Picardie, ça faisait des siècles qu'on en mangeait. Mais oui,
c'est sûr.
Mais donc le Parisien, l'arrivée à Paris, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a 12 millions d'habitants et qu'au siècle dernier, il y avait déjà pas mal. L'arrivée à Paris, c'est vrai que ça permet d'acquérir une notoriété, et aussi une notoriété internationale, ça passe à Paris, et à redonner de la notoriété aux régions, comme vous l'expliquez dans votre interview, c'est que quand les Parisiens prennent un truc à la mode, les élites dans les régions se disent « Oh, à Paris, on en mange ça, donc on va le manger aussi ».
On fait la même chose. En fait, il y a toujours eu historiquement un jeu de ping-pong entre les régions et la capitale. Il ne faut pas voir ça comme une confrontation. Il ne faut pas voir ça comme une guéguerre entre les régions, on dit les terroirs, les territoires
aujourd'hui.
Non, c'est tout le contraire. Les régions ont parfaitement compris l'utilité de Paris, c'est ça qui est intéressant. Et toutes les associations de cuisine régionale ou de table régionale ou gastronomique se sont montées à Paris d'abord.
Surtout les restaurants. Les brasseries parisiennes, elles sont créées par qui? Eh bien, par des Alsaciens. Les bistrots, c'est des Aveyronnais.
Il n'y a pas de cuisine parisienne?
Ah ben, quand ils arrivent avec les brasseries, si, ils ont fait découvrir la choucroute aux Parisiens.
Mais non, je sais, non, mais je dis parce qu'il n'y a donc, pas. Si, à Paris.
Une cuisine parisienne,
le 14e arrondissement, pourquoi il y a autant de crêperies? Parce qu'il y avait la diaspora bretonne.
C'est quoi le plat régional à Paris?
Il y a le
l'entrecôte marchand de vin.
Ouais, le steak Bercy.
Le steak Bercy, entrecôte marchand de vin, c'est typique. Ah, bref, il y a beaucoup de produits. Le steak, le tartare aller-retour, c'est parisien. Il y a beaucoup de produits. Bah oui, mais c'est un plat parisien.
La blanquette de veau est une création parisienne. Il ne faut pas l'oublier.
La pêche Melba.
Ça vient pas de Touraine?
Ah non, pas du tout.
Elle est née à Paris.
La pêche Melba.
La blanquette. Et d'abord, c'est un plat de reste. Pour revenir à cette histoire de à cette cuisine et aux plats qui sont dits anciens ou qui sont remis au goût du jour, n'oublions pas que la cuisine elle évolue. C'est-à-dire que si on fait une tête de veau aujourd'hui ou si on fait une blanquette de veau aujourd'hui, elle n'est pas faite de la même manière qu'on la faisait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Il est bien évident que les plats qui sont remis au goût du jour, les plats de la tradition culinaire française, sont adaptés à notre goût d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on mange moins gras. On veut une cuisine de qualité, une cuisine qui a du goût, une cuisine qui nous rappelle aussi notre enfance ou nos régions ou notre culture. Mais en même temps, on ne veut surtout pas retourner à la cuisine roborative d'après la Seconde Guerre mondiale, la cuisine où il y avait beaucoup trop de beurre et trop de crème, oui. Parce que notre estomac, notre corps, nous-mêmes, on n'est plus habitué à ça.
Mais tout a changé. J'ai un petit souvenir comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit quand vous parlez. Quand j'étais enfant dans un petit village où vivait ma grand-mère qui s'appelle Bouvincourt-sur-Brel, pas loin du Tréport, entre la Normandie et la Picardie. J'allais de temps en temps chez le boucher en face qui tuait ses vaches, lui-même, dans l'arrière-cour, boum. Et j'ai des souvenirs du boucher qui tuait les vaches et qui coupait ses vaches. Bon, maintenant, ça passe par les abattoirs et tout, mais autrefois, non, c'est le boucher qui faisait ça. Avec
Le cochon et le tue-cochon dans
le tue-cochon dans les fermes, etc. On faisait le beurre aussi dans la ferme où j'étais. C'était des souvenirs d'autrefois.
Et votre recette, vous voyez, Amandine Chenu, elle fait le trait d'union, la liaison entre tout ce qu'on est en train de dire, entre le passé et le présent, des cuisses de grenouille. Une recette classique française qui est presque sur le point de disparaître et que vous avez mise dans l'air du temps avec la fraîcheur de votre fournisseur et puis ce beurre, cette persillade mise à la minute par-dessus. Un commentaire, tiens.
C'est un délice.
Oui, c'est très bon.
Non, c'est
très
bon.
Il a tout fini.
Oui. Ah oui,
et c'est un des rares plats où on peut manger, qu'on peut manger avec les doigts dans la tradition française.
C'est ce que je fais, je le mange avec les doigts.
Bah, c'est compliqué. Ah oui, les cailles, les langoustines, les cuisses de grenouille, c'est une faute de goût de ne pas les manger avec les doigts, en vérité.
Elles sont charnues, c'est magnifique, hein, mon Inchenio.
Bravo. Ouais, on s'enlève ses doigts. Hein.
Ah ouais, vraiment.
C'est parti des petits plaisirs.
Et on peut saucer avec ce beurre.
Mais c'est en cela aussi que c'est un plat moderne, puisque tout le monde mange avec ses doigts aujourd'hui. Regardez, les cuisses de grenouille, on le faisait avant.
On revient dans un instant, on fait une petite pause. Ce sera déjà la dernière partie de la table du dimanche. Et je crois que vous avez encore des choses à nous dire, des choses que vous avez du mal à digérer, Emmanuel Rubin, dans l'actualité.
À moitié.
À moitié. Bon, on en reparle juste après.
Europe 1, 11h30. La table du dimanche. Laurent Mariotte.
On est à table, bon appétit si vous l'êtes aussi. C'est la table du dimanche autour de Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui avec Amandine Chenio qui nous régale avec ses cuisses de grenouille. Patrick Rambourg, historien de la cuisine et de la gastronomie française. Et nous parlions là pendant la pause du rapport que nous avons aux vivants, aux animaux. Le tue-cochon qui a complètement... pratiquement disparu de nos villages. Vous parliez de la vache que vous avez vue abattue.
Oui, mais pour des vaches que les bouchers abattaient eux-mêmes dans leur arrière-cour autrefois. Nous-mêmes qui avions des poulaillers où on avait nos lapins et on accrochait les lapins, on les tuait avec un coup sur la nuque et on enlevait leur peau comme ça. Bon, ça, c'était la vie d'autrefois. Elle a bien changé.
Vous avez une explication pourquoi on a du mal avec ce rapport au vivant, effectivement, quand on parle de cuisses de grenouilles? Ah non, je ne veux pas entendre parler de ça, des grenouilles qu'on aurait tuées. Ah, le poulet, on lui a coupé la tête.
Il y a un vrai tabou, mais c'est vrai que dans l'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est la plupart du temps, c'est c'est complètement déconnecté de l'animal. En fait, on voit des filets de volaille sous plastique, sous film. On a tendance à oublier qu'à la base, c'est un animal vivant qui a été abattu, qui a été travaillé, et avant d'arriver à être
on mange grâce à ça.
L'importance du sacrifice du cochon dans le passé, on l'a totalement oublié, mais il ne faut pas oublier que le cochon, on le sacrifiait à la fin de l'année, novembre, décembre, et qu'on l'apprêtait et on réservait ce qu'on ne pouvait pas conserver longtemps pour le repas de Noël. N'oublions pas que le repas de Noël, donc le 24, c'est une période maigre, mais à partir de minuit, le 25, c'est gras. Donc le jour gras, on peut manger du cochon, boudin. Le boudin était très présent au 19e siècle sur la table de Noël. Et ensuite, on transformait ce qu'on pouvait en pâté, en terrine. C'était des moyens de conserver les produits où on mettait dans un saloir des morceaux de viande. Et ça a perduré, je pense, jusqu'à une bonne partie du 20e siècle.
Les choses ont changé. Les Français ont besoin de changement. Et vous avez remarqué d'ailleurs, justement, qu'il y a certains Français qui changent de mode de vie. Emmanuel Rubin. Bah,
hein, j'ai remarqué ça, en fait, ça vient à nous. C'est-à-dire que c'est devenu un marronnier de la presse.
Un sondage.
Tous les ans, maintenant, il y a le dossier Changer de vie. Alors là, c'est à la une du magazine économique Challenge.
Exactement.
Ça fait la une et ça s'appuie sur un sondage Harris Interactive selon lequel un Français sur trois a besoin et envie de changer de vie. Alors, moi, ça m'ennuie un tout petit peu désormais, mais on va y aller, on va lire le dossier, on découvre quoi. Donc, qu'un Français sur trois rêve d'un cadre de vie plus agréable. Jusqu'ici, tout va bien. Généralement, hors les grandes villes, hors Paris, ça va faire plaisir à Jean-Pierre. Deuxièmement, qu'ils veulent profiter de l'existence pour profiter de leur passion, de la famille, des amis, du temps qui passe, du temps libre. Et puis troisièmement, surtout, qu'ils veulent enfin faire un boulot qu'ils aiment, un boulot qui ait du sens.
Oui, mais alors tout ça a peut-être été accéléré aussi par le confinement, par le Covid, parce qu'on a eu un autre rapport au temps avec ce confinement.
Sûrement. Mais alors la première chose, moi j'ai quand même envie de dire qu'on peut débattre de tout, même des chiffres. N'en déplaise à certains.
Je vous reconnais bien là.
Parce que le sondage, ou plutôt Challenge, s'arrange un peu. Finalement, si un Français sur trois veut changer de vie, ça signifie que deux Français sur trois n'ont pas envie de changer de vie. Ce qui est plutôt positif, c'est plutôt des bonnes ondes.
On peut le voir comme ça.
Alors, vous savez que les journalistes, et j'en suis un, on aime les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais quand même. Donc, on va rigoler. Et puis, deuxième souci de l'article, voilà, moi, ce qui m'a ennuyé dans le dossier, c'est qu'on n'éclaire en rien sur les causes réelles et profonde, à mon sens, de ce changement de vie, de ce désir de changement de vie. Mais on n'y dit pas fondamentalement pour toi. Et moi, je pense qu'on ne le fait pas, parce que ça peut agacer les gens. C'est qu'en fait, je crois que l'époque et tous ces gens désireux de changer de vie sont un peu déboussolés parce qu'il y a eu un énorme faillite de l'éducation et de l'orientation. Vous allez voir, quand ils décrivent dans le dossier la sociologie de ces gens qui veulent changer de vie. Alors, il y a des gens qui ont peu de formation. On peut comprendre qu'ils ont envie de changer de vie. Mais pour le reste, et ça c'est étonnant, ce sont des gens qui pour la plupart sont formés, très diplômés, très urbains, voire très parisiens, issus de CSP++, et eux-mêmes dans la CSP++, et pourtant, ils ont envie de changer de vie. Et là, ça interpelle. C'est-à-dire qu'on se dit que ce sont des gens qui étaient plutôt bien nantis, heureux, ils sont fait des études, ils sont restés longtemps dans ces études.
Ils ont été aiguillés sur la mauvaise voie, vous voulez
à
dire?
À un moment donné, quand tu as 30, on peut en débattre, quand tu as 30, 40 ou 50 ans, et que finalement, alors que tu as été éduqué, que tu es resté longtemps des études, tu es arrivé dans la carrière, tu veux vite t'en sortir, mais vous n'allez pas être d'accord. Moi, je dis juste que quand on veut changer de vie et qu'on dit on aura 1000 vies désormais,
oui,
c'est le risque d'avoir un destin de ricochet, et de quand on veut changer de vie, il faut peut-être commencer par en avoir une.
Mais pourquoi pas, on vit plus longtemps aujourd'hui, Emmanuel Rubin, et on nous explique qu'on va avoir 4 métiers dans une vie,
oui,
pratiquement.
Mais ça n'a pas de lien, à mon avis, avec le fait d'avoir fait des études, pas fait des études, d'avoir
mal orienté,
pognon,
j'ai
ou pas
parlé d'études, mauvaise orientation.
Non, parce qu'effectivement, il explique que c'est valable dans toutes les couches de la société.
Moi,
je pense que ça n'a pas de lien du tout avec ça. Je pense qu'on a vraiment envie de respirer, de respirer. On se sent écrasé dans une ville. Vous voyez, à Paris, en ce moment, les trottoirs sont dégoûtants. Les travaux sont partout. Paris est une ville qui est devenue sale, qui est devenue invivable. Que les Parisiens nantis, éduqués, etc.
Elle n'est pas d'accord, Amandine Chenu, elle a son restaurant dans le 10e arrondissement.
Moi,
c'était propre devant chez vous, mais c'est peut-être vous qui nettoyez.
Alors, moi, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion en venant tout à l'heure, parce que je me déplace à vélo. Voilà, je suis une vraie Parisienne. Hein. À quel point c'est un bonheur de circuler dans Paris, de faire du vélo dans Paris. Il y a plein de pistes cyclables partout. Les quais de la Seine sont
c'est rare d'entendre ça. Hein.
Agréable. Moi, je me faisais la réflexion, mais quel bonheur.
Parce que vous êtes intramuros, effectivement, et que le vélo est un bon moyen de locomotion. Mais c'est vrai que quand on a besoin de traverser Paris et parce qu'on vient d'ailleurs, oui. Mais
Hier, j'étais boulevard Excellence, ce qui est un boulevard connu dans Paris. Il y a encore des feuilles mortes de l'automne dernier, il ne faut quand même pas déconner. Il y a des plaques vieilles gras partout. Je me suis garé, je me
suis dit. Vous êtes sûr de ça
Devant l'ancienne maison de
Claude François.
Juste en face, j'étais garé juste en face. Il y a des feuilles mortes de l'automne dernier, il y a des papiers gras partout, il y a des poubelles qui ne sont pas ramassées. Je me dis, on est où, là?
Alors, Emmanuel a poussé son coup de gueule. Je vous propose maintenant qu'on finisse avec des coups de cœur culturels. Cinéma, spectacle, théâtre, télévision, livres, des choses que vous avez envie de recommander dans l'actualité, on va dire, culturelle de la semaine. Il y a pas mal de choses. Amandine Chéniaud, un livre, un spectacle ou un restaurant?
Un restaurant, Amélie Darvas et Gabi Bagnesio, Aponem, à Vaillant, dans l'Hérault, c'est sublime.
Très belle table.
J'en ai pleuré d'émotion, tellement c'est à fleur de sensibilité partout.
Une ancienne de chez Eric Fréchon.
Exactement.
Jean-Pierre Pernaud, votre recommandation culturelle pour la semaine qui vient?
D'abord, un petit coup de gastronomie. La choucroute de Christine Spicer à Strasbourg. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle vend sa choucroute sur le marché. Elle est fabuleuse, la reine de la choucroute. Et en plus, elle est vachement sympa. Elle met du boudin dans sa choucroute, de l'excellent boudin. Et puis, le coup de cœur culturel, c'est pour une pièce que va jouer ma femme dans quelques jours, pas cette semaine. Ça s'appelle Les Tontons Farceurs et ça démarre le 29 septembre au Cap d'Agde en tournée avec Philippe Chevalier dans le rôle principal et Nathalie Marquet-Pernot. Tonton Farceur, on va bien rigoler.
Patrick Rambourg, une recommandation pour la semaine qui vient ou les semaines qui suivent.
Il y a une exposition qui se tient depuis plusieurs semaines déjà au musée de la céramique à Sèvres sur les arts de la table et je la recommande. C'est une très très belle exposition, très bien construite et vraiment très intelligente.
L'importance de la vaisselle dans le plaisir de la table avec cette belle manufacture de Sèvres. Emmanuel Rubin.
À Perpignan pour le festival Visa pour l'image. C'est le festival, vous savez, du photo-reportage de Perpignan. Il a commencé fin août, il va durer jusqu'à fin de septembre. Avec notamment un hommage à Éric Bouvet, un immense de la photo de journaliste, 40 ans de carrière. C'est vrai que quand vous baladez, en plus vous découvrez Perpignan, vous découvrez la ville, puisque ce sont les plus beaux hôtels particuliers du pays catalan qui s'ouvrent pour servir d'écrin à ces images. C'est vrai que quand on a vu toutes les images d'Afghanistan aujourd'hui, qui sont quand même des images aussi terriblement celles de nos écrans digitaux, là on voit le métier. Du photo-reportage, ça interpelle, ça questionne. Je ne prends pas parti, je dis allez-y, vous allez voir ce que c'est des grands photographes et des grands journalistes.
Alors pour rebondir, moi, avec le dossier gastronomie du magazine Au cœur des régions de Jean-Pierre Pernaut et pour rebondir sur l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française de Patrick Rambourg, je vous conseille Délicieux, un film sur la création du premier restaurant qui sort au cinéma mercredi prochain, le 8 septembre. On a reçu Grégory Gadeboyère à la table des bons vivants sur Europe 1. Il faut voir ce film, il fait un bien fou. Il y a quelques petits arrangements avec l'histoire, soit parce que le premier restaurant a été créé à Paris et non pas en Auvergne, comme on le raconte.
Ils ont le droit de prendre des licences.
Mais c'est une très belle histoire et un Grégory Gadebois magnifique, exceptionnel.
Très belle image du Cantal.
On me signale que c'est l'heure de rendre l'antenne, comme on dit. Eh bien, voilà, on ne va pas débarrasser la table tout de suite.
Non, parce qu'on
va
passer. C'est l'heure du dessert qui vient d'arriver.
Et qu'est-ce qu'on mange comme dessert, Jean-Pierre Perrault?
Un bon gâteau qui me rappelle les gâteaux basques.
C'est un gâteau basque qui vient de la maison Pariès, pour vous.
Oh là là.
Voilà, c'est spécialement la petite douceur pour terminer. C'est une petite douceur qui finit bien avec la gourmandise des cuisses de grenouille d'Amandine Chéniaud, ça. Hein. Merci, Amandine.
Avec plaisir.
De nous avoir régalé. On vous retrouve donc dans votre restaurant Pouliche dans le 10e arrondissement et votre nouvelle table dans le 18e.
Café de Luce. Place du théâtre de l'atelier.
Merci Emmanuel Rubin.
Yes, il fait du touron délicieux aussi.
Aussi.
Si vous le dites.
Merci Patrick Rambourg.
Merci de m'avoir invité.
C'était un plaisir. Merci pour votre beau livre sur cette histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Merci Jean-Pierre Pernaut.
À très vite.
À très vite sur LCI, sur JPP TV et puis dans ce magazine Au cœur de nos régions. Merci à mon équipe du dimanche, David Ordonneau à la rédaction en chef, Claire Dutronc à la programmation et à la rédaction, Loïc Vimard à la réalisation, Fabien Duchesne et Benjamin Desantis à la technique. Bon dimanche, bonne cuisine si vous êtes en train de la faire et bon app tout court.
Bon appétit.
Alors ce gâteau basque.
Moi j'ai bien mangé.
Très bien.
C'est très bon, ouais.
Entre vos petits croissants. Les cuisses de grenouille et le gâteau basque, alors là, je suis le plus joyeux.
Très bien.
Vous faites une belle émission. Hein. Ça va surtout pour les invités, parce qu'eux, ils bossent, ils mangent pas, mais nous...